musique que vous avez entendue en sortant de mon entrevue avec Loulou, c'était Loulou Hughes au show du Refuge en 2004. Tout le monde avait été littéralement jeté en bas de son siège par... c'est ça. Loulou arrive, puis c'est une massacreuse. Arrive, elle va tuer tout le monde dans la salle, fait que vous aurez du fun avec elle. Là, on a avec nous Christian Page pour sa chronique « Mythes et complots ». Fais-nous peur.
Ah oui. Ben, merci de cet accueil, Dan. C'est notre première fois ensemble. Alors, oui. J'espère qu'on va s'amuser tout l'été à parler de cet univers étrange, mystérieux,
où
se côtoient l'impossible et les théories du complot. Et on va commencer avec une théorie du complot et tu vas comprendre que c'est une nouvelle, vieille nouvelle qu'on nous a un peu recyclée. Je te parle du vol MH370. J'imagine que tu te rappelles de cet
incident. Oui, on ne l'a jamais retrouvé.
Voilà. Donc, on est en marge. Pour les gens qui nous écoutent, on va faire un peu l'historique de l'affaire. On est en mars. On est le 8 mars 2014. On a cet appareil, un avion, un Boeing 777, qui décolle de Kuala Lumpur en Malaisie à destination de Pékin en Chine. Et voilà qu'il décolle quelques minutes avant minuit et aux alentours de minuit 20, alors qu'il va quitter la zone de couverture des radars, le pilote annonce à Kuala Lumpur « Merci, bonsoir » et c'est la fin des communications. Ce que l'on sait, c'est là qu'on entre dans ce qui va devenir le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. On sait que quelqu'un, dans le poste de pilotage, a coupé les transpondeurs. Les transpondeurs, ce sont des balises de localisation parce que les gens s'imaginent qu'un radar ou que les radars dans les aéroports détectent tout ce qui vole. C'est pas tout à fait vrai. Sinon, on capterait les nuages, on capterait toutes sortes de trucs. Donc, les appareils commerciaux...
Capterait les mauvaises pensées aussi.
Donc, les appareils commerciaux sont dotés de balises de localisation et ce sont ces balises qui envoient un signal au radar qui dit « Je suis tel numéro de vol à telle altitude » et ces informations télémétriques sont transmises sur un écran qui
donc
donne la position.
Donc, on sait déjà que c'est l'équipe en avant qui est responsable de ça, probablement volontairement.
C'est sûr que quelqu'un à bord a volontairement coupé les transpondeurs. Ça ne se coupe pas de manière instantanée.
Si le pilote dit « bye »,
voilà, dit, ben, merci, bonsoir, et ça se termine là. Et là, bien sûr, depuis, on a cherché un peu partout. On sait que l'appareil a changé de trajectoire, donc il a quitté cette route vers la Chine pour retourner vers l'océan Indien. Et depuis, c'est probablement les plus grandes recherches jamais menées en mer dans l'espoir de retrouver l'appareil. On n'a jamais retrouvé ni l'avion, ni le corps principal de l'avion, ni non plus de corps. C'est vrai que dans les années qui ont suivi, quelques débris ont été retrouvés sur la côte est de l'Afrique, notamment à l'île de la Réunion et au Mozambique. On a retrouvé des pièces qui montrent bien que l'avion a dû s'écraser quelque part dans l'océan. Il s'est disloqué, mais on n'en sait pas plus. Et bien sûr, pourquoi l'importance de retrouver l'appareil? Ben, on se dit s'il y avait des boîtes noires. Au moment où on se parle, c'est sûr que l'eau de mer a endommagé les boîtes noires. Donc, l'idée de pouvoir tirer des informations des boîtes noires est à peu près nulle. Mais au moins, on pourrait récupérer des pièces du tableau de bord pour connaître dans quelle position étaient les leviers, les boutons qui nous permettraient un peu de comprendre ce qui s'est passé. Donc, cette quête, elle est toujours omniprésente. L'an dernier, le gouvernement de la Malaisie ont rendu public leur rapport d'enquête en disant « Voilà, c'est terminé, on a fait une enquête là-dessus et nos pilotes sont exonérés de tout blâme, c'est sûr que c'est pas eux autres et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. » Donc, une des théories, une des hypothèses qui avait cours, si on exonérait les pilotes d'avoir pris part à cette situation incroyable, on a imaginé que l'avion, on sait que l'avion transportait des piles, hein, le genre de petites piles que tu retrouves par exemple dans des montres, dans des petits appareils, et ces piles au lithium peuvent occasionner des incendies. Alors on s'est dit, est-ce qu'un chargement de piles dans la soute à l'appareil a pu détraîner une espèce de... aurait fait un feu qui aurait coupé les circuits et qui aurait entraîné la perte de l'avion. Mais voilà qu'une nouvelle hypothèse... Et là, évidemment, les théories du complot se sont embarquées
là, t'es déjà embarqué dedans.
Ouais, tu comprends. Donc, est-ce que c'est possible que l'avion aurait été détourné vers Diego Garcia, donc une île dans l'océan Indien...
Où se trouverait Elvis Presley,
oui, JFK et tout. Et cette île, on le sait, c'est une île britannique qui est en location par les Américains. On sait qu'il y a des installations de la CIA et de la NSA. C'est là que se trouve l'une des parties du programme Echelon, ce programme dénoncé par Edward Snowden de surveillance électronique. Donc, est-ce qu'on a détourné l'appareil pour s'emparer de cerveaux? Parce qu'on sait qu'il y avait des spécialistes en ingénierie à l'intérieur de l'avion, des spécialistes chinois. Donc, c'est toutes les théories du complot. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui est rebondi qu'on ne s'attendait pas. La fille du pilote, le pilote c'est Zahari Ahmad Shah, un homme de 55 ans, sa fille a avoué cette semaine que son père, peu de temps avant le décollage, était dépressif, qu'il vivait une séparation difficile. Son épouse avait découvert qu'il avait une liaison avec une hôtesse de l'air. Et là, on se demande si finalement le pilote n'est peut-être pas aussi blanc qu'on le croyait. Donc l'hypothèse, et ça reste encore à prouver, mais l'hypothèse c'est que c'est lui qui aurait coupé les transpondeurs, aurait fait monter l'appareil à 12 000 mètres d'altitude, aurait décompressé l'intérieur de l'avion. Les gens auraient donc perdu conscience, lui également, et l'appareil se serait écrasé dans l'océan. Ça s'est déjà produit. On a un vol, à un moment donné, d'une compagnie Helios Airlines, une compagnie grecque, qui avait coupé, qui avait décompressé comme ça de manière accidentelle. Et tous les gens, l'équipage et les passagers, étaient décédés. L'avion s'était écrasé au nord d'Athènes. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est produit? Et là, bon, évidemment, avec cette théorie, ça rebondit. Ça ne plaît pas nécessairement à ceux qui imaginaient toutes sortes de sombres complots derrière la disparition des MH370.
Non, mais c'est quand même la nature humaine.
Voilà. Donc,
ça, c'est pas du terrorisme. C'est voilà. Juste un acte de quelqu'un qui a un problème de santé mentale.
Un acte, un geste d'un détresse. Homme désespéré qui, ouais. Qui voilà, voulait emporter avec lui, donner un signe de sa détresse, mais malheureusement, il a emporté avec lui 239 personnes dans la mort.
T'es fascinant. Je sais pas, je vais bien dormir à ce soir. Puis, t'as un deuxième sujet, mon cher.
Ben, est-ce que tu crois à la réincarnation?
Moi, c'est parce qu'il y a personne qui est arrivé avec un film, dit « gars, j'ai tourné ça de l'autre bord puis je te l'ai ramené ouais. ». Donc, moi, j'ai rien pour y croire, mais j'ai pas de preuve contre non plus.
Dan, tu as tout à fait raison. En fait, ce concept-là de la réincarnation, on va bien établir les choses. C'est un concept religieux qu'on retrouve surtout...
C'est comme le concept de l'âme.
Voilà. Parce qu'elle l'âme, implique cette religieux. Âme. Donc, l'idée de cette réincarnation, c'est le fait que l'âme passe d'un corps à un autre. Hein. C'est le voyage de l'âme vers une espèce d'absolu. C'est une hypothèse qui est très, très populaire dans les milieux de l'hindouisme. C'est un des fondements même de l'hindouisme, l'idée de la réincarnation. Dans les pays occidentaux, on est moins friand, on est plus frileux par rapport à cette théorie-là. Quoique, il y a des choses sérieuses qui ont été faites. Il y a des scientifiques qui se sont intéressés, par exemple, à des souvenirs spontanés d'enfants, et en particulier dans des pays où on encourage hein, le narratif de ces souvenirs. Dans des pays occidentaux, on va dire « Ah, mon fils, il y a des amis imaginaires, etc. Parle pas de ça, c'est bizarre. » Mais il y a certains pays, on pense par exemple en Inde, où là on a l'hindouisme, où on encourage le narratif de ça. Des enfants ont raconté des souvenirs.
Même ici, en hypnothérapie, même en psychanalyse, ouais. Tu peux reculer très, très, très voilà. loin.
Donc, quelle est la valeur de ça? Ça reste à démontrer.
C'est pas tangible.
Il y a des scientifiques, je pense notamment un scientifique canadien, Ian Stevenson, qui est décédé il y a quelques années, qui avait fait des travaux très importants autour de ça, sur ses souvenirs spontanés d'enfants. Et dans certains cas, il a pu démontrer une certaine acuité dans le souvenir des enfants, une acuité au niveau de l'information qu'il n'aurait pas pu obtenir d'une autre manière que par la réincarnation. Il a d'ailleurs publié un ouvrage qui s'intitulait « 20 cas suggérant la réincarnation ». Donc, pas de réincarnation, mais suggérant la réincarnation.
Parce qu'avant, on parlait beaucoup de la lumière au bout du tunnel, puis moi, je l'ai vu, donc je suis mort, puis je suis revenu. Puis on s'est aperçu finalement que c'était un phénomène du cerveau qui créait ça.
Et là, tu viens de péter ma balloune.
Oh, excuse-moi.
Non, parce que j'arrive justement à ça. Écoute, il y a un article scientifique qui est publié dans le magazine Cell, qui est un périodique scientifique qui s'adresse à la recherche notamment sur les neurones, sur les cellules, sur la biologie de pointe. Et ces gens-là, donc c'est l'Université de Tel Aviv qui vient de publier dans ce périodique scientifique. Je peux te laisser l'article, c'est 40 pages de littérature très scientifique. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, la mémoire pourrait peut-être se transmettre par l'ADN. En fait, ils ont étudié
ça,
des vents.
Ça, c'est scientifique. Là. On passe dans un domaine.
Absolument.
Là.
Donc, cette idée-là d'avoir des souvenirs, évidemment, ça nous semble tout à fait loufoque. Et eux, ce qu'ils ont fait, tu comprendras qu'on est loin quand même de l'être humain, ils ont étudié des vers. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est comment est-ce que les vers peuvent-ils reconnaître l'odeur de leur nourriture avant même de la connaître. Hein? Et là, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y aurait des transmetteurs qui feraient passer à travers l'ADN certains éléments de souvenirs ou de reconnaissance innée. Ce qu'il faudrait donc... Et là, si on est dans le cas du verre, tu
comprends. Parce que là, on est sur la génétique.
Absolument.
Mais on parle d'épigénétique. J'ai-tu encore de péter une autre balle?
Non, tu es exactement dans ce discours-là. Et donc là, les scientifiques se disent, attention, donc là, on est ici dans les acides de la cellule. En fait, on parle ici de molécules qui sont synthétisées par les cellules. Hein. Et là, on se demande si c'est vrai pour les vers, parce que c'est toujours la question de l'acquis et de l'inné. Mais finalement, il y a certains souvenirs qu'on croit peut-être être un acquis d'une vie antérieure qui pourrait finalement être simplement un acquis qui serait passé par l'ADN. Si c'est vrai chez des vers, qu'est-ce que ça peut être chez des êtres humains? Donc, au-delà du savoir qui est colligé de la mémoire neuronale, on pourrait peut-être avoir une transmission à travers l'ADN d'une génération à une autre et qui peut-être pourrait expliquer certains comportements qui semblent innés, mais de façon si extraordinaire qu'on imagine la réincarnation. Comme un enfant, par exemple, qui n'a jamais appris du piano, peut-il soudainement jouer du piano après quelques leçons, presque comme un virtuose?
Des fois, dans la maladie mentale, un trouble de dédoublement de personnalité, puis tu as une des personnalités qui parle yougoslave.
Voilà, donc ces éléments innés qui, jusqu'à maintenant, n'avaient que d'explication à travers ce concept de la réincarnation, mais là, peut-être qu'aujourd'hui, la science se rapproche d'une autre explication, et cette explication, on l'aurait dans nos gènes.
Est-ce que tu connais le scientifique Neil deGrasse Tyson?
Absolument, oui.
Il a fait l'expérience à un moment donné, puis ça a l'air qu'on a 98 % de notre ADN qui est exactement le même que celui d'un arbre. Je dis ça pour les racistes, comme
absolument.
Petite référence.
Absolument. Donc, c'est pour ça que c'est...
On est sur la même planète, tu sais, puis nous autres, on voit les arbres comme quelque chose de séparé. Regarde autour de la Terre, sont toutes liées.
Oh oui, absolument.
C'est un univers d'arbres qui sont connectés les uns ensemble.
En fait, c'est l'agencement de ces molécules qui fait que c'est un animal, c'est un chimpanzé, c'est un humain ou c'est un arbre. Donc, tu vois. Et si c'est vrai pour les vers, est-ce que cette information neuronale pourrait être transmise par l'ADN chez les êtres humains? Alors, on se rapproche de ce concept de l'âme, mais on s'y approche de façon scientifique.
Bon, ben, il ne m'avait pas menti. C'est vrai que tu es passionnant. Tout le monde, reste avec nous parce qu'après la pause, Christian va nous parler de la chambre d'âme. Alors, c'est la suite de Mythes et complots. Puis Christian Page va nous dire, ça a l'air qu'on a peut-être retrouvé la fameuse chambre d'ambre. Explique-nous ce que c'est.
Mais écoute, je te ramène dans le contexte de l'histoire. On est à la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, la marche du Troisième Reich semble à peu près inaltérable. Ils marchent sur tout et la première place, ils vont annexer l'Autriche, vont marcher sur la Pologne et non seulement ils pillent les villes et les villages, mais évidemment, ils pillent les trésors nationaux. Les Allemands vont construire un peu partout des abris, des caches pour mettre ces fameux trésors pillés. J'ai eu la chance, moi, à Nuremberg, alors que je tournais une série qui était sur les reliques saintes. Et on sait que les Allemands étaient fascinés par une espèce d'occultisme et dont notamment la lance qui apparemment avait percé le flanc du Christ qui était en Autriche. Et dès qu'on a annexé l'Autriche, on a ramené ces trésors-là en Allemagne. Et
ils étaient tout volés.
Oh, ils étaient volés. Et on parlait justement au moment de la pose de nombreux trésors que les Allemands ont pillés, qu'on n'a jamais retrouvés. On sait que plusieurs ont été détruits dans cette campagne de terre brûlée. Hein, le Reich a compris que l'Allemagne était tombée. Ils ont détruit certains de ces trésors, mais d'autres restent cachés dans des abris. J'ai visité l'un de ces abris. Écoute, sous Nuremberg, c'est
un
quand
bunker.
Même un bunker souterrain. C'était une ancienne cave à vin que les Allemands avaient réorganisée. Et là, on descendait à peu près à 40 mètres sous la surface. C'est drôle parce que tu as les rues au-dessus et personne s'imagine que ce bunker-là est là en dessous d'eux.
Comment tu te sentais là-dedans, toi?
Et ce qui était plus extraordinaire, c'est qu'on avait gardé les éléments comme à l'époque du Reich. Donc, il y avait les tables, les chaises, les radios, les systèmes de communication, les systèmes de ventilation qui permettaient aux soldats allemands, qui étaient les gardiens de ces trésors-là, de pouvoir vivre sous terre. C'est à la fois enivrant parce que si tu es un amateur d'histoire, tu es dans l'histoire. Et en même temps, c'est incroyable d'imaginer les extrêmes auxquels le Troisième Reich s'est livré. Et dans ces grands trésors disparus, Il y en a un qu'on n'a jamais retrouvé, et c'est la chambre d'ambre. La chambre d'ambre, pour te donner une idée à quoi ça pouvait ressembler, c'est une dizaine de panneaux qui étaient faits dans l'ambre. Ça avait été fabriqué sous le règne de Frédéric Guillaume, qui était le roi de Prusse. Il l'avait donné au début du 19e siècle à Pierre le Grand, le tsar de Russie, qui lui en avait fait. Ce sont des panneaux, donc on les a assemblés dans l'un des salons du palais impérial de Tsarskoïe Selo, qui était tout près de Saint-Pétersbourg. Et lorsqu'arrive la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Allemands vont marcher sur la Pologne, ils vont faire quelques incursions en Russie et vont s'emparer de la chambre d'ambre. Ils vont démanteler les panneaux qui vont malheureusement disparaître dans les méandres du Troisième Reich. On ne sait pas ce qu'il est advenu de la chambre d'ambre. On estime sa valeur en monnaie d'aujourd'hui entre 250 et 500 millions de dollars. Tu t'imagines le truc?
Vraiment, il y a une couple de personnes qui courent après en ce moment. Là.
Absolument, c'est un trésor fabuleux. On a reconstruit la chambre d'ambre. Les gens qui l'avaient visitée à l'époque, qui visitaient Tsarskoïe Selo, disaient c'est la 8e merveille du monde. Je te rappelle qu'on avait dit ça aussi du palais de Louis XIV hein, à Versailles. C'est la 8e merveille du monde.
Ça, c'est comme quand on dit le procès du siècle. Il y en a un par année.
Il y en a un par année. Et là, on perd la chambre d'ambre. Et la nouvelle d'aujourd'hui, en fait, c'est la nouvelle de cette semaine. Il y a une équipe de chasseurs de trésors qui ont découvert dans une forêt dans le nord de la Pologne un endroit qui était occupé durant le Troisième Reich par une garnison allemande. Ils ont creusé là plusieurs bunkers et des campements. Et voilà, ils sont convaincus, en fouillant dans des archives de l'armée allemande, ils sont convaincus que la chambre d'ambre a transité par ces établissements. Et voilà qu'ils ont mené des recherches en 2016-2017 sans rien trouver. Et là, coup de théâtre, ils ont découvert l'entrée d'un bunker souterrain insoupçonné. Alors, tu comprendras qu'on a construit autour, il va falloir déblayer cette entrée, descendre sous terre, dégager s'il y a des corridors, des allées qui mènent dans le souterrain, il faudra les dégager. Il raconte notamment que des arbres ont traversé les murs et les racines ont pris place dans les corridors.
Il y a des œuvres qui doivent être endommagées.
Voilà, mais tu t'imagines, c'est une espèce de fantasme, hein, trouver un trésor et qui plus est, la chambre d'ambre. Alors là, évidemment, dans le discours des chasseurs des trésors cette semaine, la grande nouvelle, c'est a-t-on trouvé l'endroit où les nazis ont dissimulé la chambre d'ambre? Alors, il faudra attendre. Eux croient pouvoir pénétrer dans le souterrain d'ici la fin du mois de juin, donc on est tout prêt. Sinon, au tout début du mois de juillet, ils devraient être en mesure.
Ils attendaient qu'on fasse la Saint-Jean, c'est juste ça.
Oh, c'est ça. Ils ont dit, écoute, on coupera pas l'herbe sous le pied, attendons que la Saint-Jean soit passée. Donc, attendons au cours des prochains jours, ils doivent obtenir bien sûr les autorisations nécessaires, faire les travaux en conséquence, mais qui sait, peut-être au cours de l'année, verra-t-on à nouveau la chambre d'ambre.
Hey, merci beaucoup Christian, t'es absolument fascinant, je me sentais comme dans un film.
Ça me fait plaisir.
On se reparle la semaine prochaine. Et vous tous les auditeurs, restez là parce que c'est pas parce que l'animateur est en vacances que toute l'équipe est partie. Luc Lavoie s'installe en studio, il sera avec nous pour la prochaine heure. À tout de suite.